France Musique.
Carrefour des Américains.
Une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
Mexico, Madrid, La Havane, la musique et le monde. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce deuxième chapitre de Carrefour des Amériques. Et nous voilà de nouveau à Cuba durant l'année 1940, alors que le pays est en pleine expansion et que la démocratie est encore victorieuse, loin du fracas des armes en Europe. Dans les années 1940, la population va dépasser allègrement les 5 millions d'habitants. La Havane s'est beaucoup étendue, les villes cubaines sont reliées entre elles par le plus important réseau ferroviaire d'Amérique latine et de nouvelles lignes aériennes sont créées. Dans la campagne, l'implantation de nouveaux hôpitaux et de nouvelles routes est un progrès certain, tout comme la régulation des salaires et des journées de travail. C'est dans cette atmosphère sereine et optimiste que le jeune musicien populaire Joséito Fernández commence à se faire connaître. Il était né à La Havane en 1908 dans une famille très modeste. À 12 ans, il travaille déjà comme cireur de chaussures tout en donnant des sérénades avec des musiciens, ce qui lui permet de s'intégrer très tôt à des groupes professionnels. En 1940, il chante pour la première fois un refrain qu'il présente au public comme une œuvre dédiée à sa mère et à la Vierge de la Charité du village du Cobre, la patronne de Cuba. Une guajira guantanamera, c'est-à-dire une chanson de la campagne de Guantanamo. Le succès est tel qu'il est engagé par la célèbre radio cubaine CMEQ, où ses talents d'improvisateur font merveille dans une émission très écoutée dans le pays, El Suceso del Día, l'événement du jour. Il est en effet censé commenter cet événement en chantant. Alors il invente chaque soir de nouveaux couplets sur cette guajira guantanamera pour faire la morale, ironiser sur le fait divers du jour. Ce refrain fera le tour du monde au début des années 60. Guantanamera, guajira, guantanamera, guantanamera, guajira, guantanamera. Vuelve mi voz la cimera, airosa a cantarle al mundo. Vuelve mi voz la cimera, airosa a cantarle al mundo. Como homenaje fecundo al chia-chia-chia que hoy impera, tal vez como mensajera de mis agudos dolores, pero aunque sufro rigores infames de la vileza, con amor puro y nobleza llega a mis admiradores. Yo quisiera poseer de Dante la inspiración, de Sócrates la instrucción, su poderoso saber. Me afanaría en aprender, estudiaría con amor, estudiaría con fervor, si tuviera la certeza de llegar a la grandeza cubana, de Darío Campo Amor, de Aristóteles Sagrado, discípulo del maestro, pintado a conceptos puestos,
Guantanamera y al rey de la melodía.
C'était cela, la première Guajira Guantanamera de Joséito Fernández en 1940. À Cuba, depuis le retour à la démocratie en 1933, les présidents de la République se sont succédés et c'est un militaire révolutionnaire, Fulgencio Batista, qui tient vraiment les rênes du pouvoir, avec notamment l'appui du Parti Socialiste Populaire, c'est-à-dire le Parti Communiste de Cuba. Mais la démocratie tient le coup vaille que vaille jusqu'en ces années 1940. Depuis des années, les prisonniers politiques ont été libérés, les partis d'opposition légalisés, l'autonomie universitaire rétablie et une assemblée constituante convoquée afin de rédiger une nouvelle constitution qui sera l'une des plus progressistes au monde. Les pays d'Amérique latine, d'ailleurs, vont faire de Cuba une sorte de modèle. Les artistes latino-américains rêvent de venir se produire à Cuba. Le Mexique, en grand voisin, est en première ligne. En novembre 1939, c'est le baryton Jorge Negrete, le nouveau cow-boy du cinéma mexicain, qui est la vedette du spectacle du théâtre Encanto, qui a lieu entre les séances de cinéma à 17h et à 21h, De plus, le 8 janvier, Jorge Negrete va renouer à Cuba avec son passé de chanteur d'opéra en interprétant le rôle du prince Danilo dans La Veuve Joyeuse de Franz Lehár pour quelques représentations seulement et c'est un succès fou. On l'écoute dans l'air de Jim, de l'opérette américaine Rosemary de Rudolf Frimmel qu'il venait d'enregistrer en espagnol et où ses demi-teintes font merveille.
Amor, Rosemary, será para mí toda una vida de ilusión. Tus labios sabrán besarme sin par, tus ojos calmarán mi ansiedad. Yo quiero que seas para mí, oh gentil y dulce Rosemary. Oh Rosemary, te adoro y solo por que llegaras a quererme y que jamás pudieras olvidarme. Mi alma toda entera rendido te consagraré. Si tuvieras tu esclavo de amor seré. Esclavo de amor sé.
Décidément, tout semble aller pour le mieux à Cuba dans le meilleur des mondes. Mais voilà, la corruption est encore bien difficile à éradiquer. Dans son roman « Les hérétiques », Leonardo Padura décrit très bien en quelques mots la situation dans le pays en 1940. La prospérité du pays et sa démocratie républicaine, écrit-il, devaient hélas cohabiter à l'époque avec un des pires fléaux sociaux, la corruption en constante progression. Le désir de s'enrichir le plus vite possible était si viscéral qu'il dominait les hommes politiques, les commerçants, les investisseurs, les chefs militaires, ainsi que des policiers et autres personnalités plus ou moins publiques. Et il se produisait de violents conflits armés entre les clans, y compris entre les clans d'étudiants à l'université. Un phénomène très inquiétant qu'on appelait le gangstérisme à Cuba. Et bien c'est là, curieusement, que l'Espagne va entrer en scène dans notre émission. Un spectacle de flamenco et de musique cubaine est présenté au Théâtre National fin 1939 par la danseuse espagnole Rosita Segovia, très populaire à l'époque à La Havane. Avec des artistes invités comme Jorge Negrete, en grande vedette. Un spectacle intitulé « Par des chemins sinueux » avec en sous-titre « Contre le gangstérisme ». Et le théâtre fait le plein. C'est ainsi qu'à partir de 1940, l'Espagne va être de plus en plus présente à Cuba. La guitare, en particulier, est à l'honneur le 24 janvier. Andrés Segovia est de retour pour son troisième et dernier récital. Il ne reviendra à Cuba qu'en 1956 en soliste avec l'Orchestre philharmonique de La Havane. Il a alors 47 ans. Le public cubain l'accueille toujours avec une sorte de ferveur, de grand recueillement. Depuis de longs mois, il parcourt l'Amérique latine, il joue partout la chaconne de Bach qu'il a transposée pour la guitare et les études que le compositeur brésilien Aitor Villa-Lobos venait de lui dédier. Nous écoutions successivement l'étude pour guitare numéro 1 de Aitor Villalobos, interprétée par son dédicataire Andrés Segovia, qui interprétait à la suite l'étude numéro 1 en ut majeur du compositeur espagnol Fernando Sor. Le 9 février 1940, l'Espagne est encore en scène à La Havane à l'occasion de la création au théâtre principal de la comédie de la zarzuela espagnole Katyushka. Et c'est une sacrée surprise. Elle a été composée par Pablo Sorozábal en 1931, à l'aube de la République espagnole. Et elle avait fait grand bruit à l'époque. D'ailleurs, plus tard, sous le franquisme, elle sera totalement bannie de tous les théâtres. L'action se déroule en Russie durant la révolution de 1917. Une princesse s'énamoure d'un envoyé bolchevique venu de Kiev. Ce dernier, fou de passion, lui délivre un sauf-conduit pour qu'elle puisse s'enfuir. Mais à la fin de l'ouvrage, il est contraint de se rendre au commissaire politique venu de Kiev pour l'arrêter et il avoue publiquement cet amour contraire à son devoir. Il clame alors sa fidélité à l'idéal bolchevique devant la foule rassemblée. Les nobles disent qu'ils adorent la Russie, mais ils n'ont pas su la sauver. La Russie, c'est celle que nous défendons, la Russie des travailleurs. Les deux amoureux se déclarent à nouveau leur passion et alors dans un grand élan de générosité, le commissaire politique les expulse tous les deux au-delà des frontières d'Ukraine. On imagine la satisfaction de Fulgencio Batista et de ses alliés du Parti communiste cubain s'ils ont entendu cette confession bolchevique de la scène finale de la zarzuela espagnole Katyushka alors qu'ils préparent justement la campagne pour les prochaines élections présidentielles à Cuba.
Ay, carrocia, noble señores,
la scène finale de la zarzuela espagnole Katyushka de Pablo Sorozabal, Manuela Ausensi baryton, Isabel Penagos soprano, le chœur et l'orchestre des concerts de Madrid dirigé par le compositeur. En février 1940, alors qu'est créée cette zarzuela, Batista avait quitté l'armée pour se présenter aux élections présidentielles prévues pour le mois de juin 1940. Il a réussi à fédérer plusieurs partis, dont le Parti communiste. Un parti peu représentatif à l'époque, c'est vrai, mais auquel Batista tient beaucoup. Il est en effet très proche de son leader, l'écrivain Juan Marinello, grand propriétaire terrien, détenteur d'une belle plantation sucrière et dont l'idéal communiste lui convient parfaitement. C'est dans la fièvre de cette campagne électorale que le 1er février 1940, la presse annonce le retour à Cuba d'un incroyable saxophoniste cubain, El Negro Aquilino, le Noir Aquilino. Il avait débuté dans les jazz bands de la Havane avant de quitter Cuba pour l'Espagne en 1932, l'Espagne de la Seconde République où il s'était rendu célèbre en jouant du flamenco au saxophone dans les arènes avant les corridas comme son grand rival, le saxophoniste andalou Fernando Vilches. El Negro Aquilino avait épousé une Espagnole et il avait continué à jouer durant la guerre civile avant de rentrer à Cuba en cette année 1940, bien décidé à faire des tournées à travers les coins les plus reculés du pays. Et ces passodobles font bientôt fureur à Cuba. L'un d'eux est même devenu l'indicatif d'une radio, la RHC, la radio Habana, Cuba, une des meilleures radios cubaines.
Thank you.
Le saxophoniste cubain El Negro Aquilino, enregistré ici à La Havane à son retour d'Espagne au début des années 40. En 1947, on le retrouve à New York, puis il revient à Cuba avant de quitter définitivement le pays pour les États-Unis dès le début de la Révolution en 1959. La campagne électorale se déroule à Cuba en toute sérénité. Batista affronte avec autorité la coalition qui dirige alors le pays et qui est à l'origine de la proposition de la nouvelle constitution. Quant aux femmes, elles sont plus que jamais actives dans les mouvements militants. Elles jouent toujours un rôle déterminant dans la vie culturelle et notamment la vie musicale, que ce soit au sein de la société Pro Arte Musical ou au Lyceum, où elles organisent des saisons musicales de très haut niveau. Quant à l'impresario cubain Ernesto de Quesada, qui a longtemps travaillé avec elle, il vient de fonder sa propre société de concert et il fait venir à La Havane les prestigieux artistes dont il s'occupe. C'est le cas les 12 et 15 novembre 1940 du pianiste Alexandre Brailovski, ukrainien nationalisé français qui vit à l'époque aux États-Unis. Il donne un récital au théâtre Auditorium. Scarlatti, Beethoven, Chopin, Ravel. Eh bien, on va l'écouter dans Trois Écossaises de Frédéric Chopin, car Chopin, c'était vraiment son cheval de bataille. Décidément, Alexandre Brailovski semble s'amuser comme un fou en jouant ces Trois Écossaises de Frédéric Chopin. À La Havane, les mélomanes sont gâtés en cette année 1940, et ceux qui aiment l'art lyrique encore plus. Quand on pense que le 14 février, ils ont le droit à un récital de Jussi Björling, qui va revenir en 1946 et en 1948. Au mois de mars, il se presse au récital de la soprano Grace Moore, suivi un mois plus tard par la basse Alexandre Kipnis. Eh bien, on va écouter Grace Moore, qui est accueillie en grande pompe à La Havane. N'oublions pas que c'était une grande star de Hollywood et elle fait donc la une des journaux. Elle chante des airs et des mélodies françaises, des leaders de Tchaïkovski et des tonadillas du cubain Joaquin Nin, en hommage à ce grand compositeur qui vient d'arriver d'Europe. Il est d'ailleurs présent dans la salle et ovationné par le public. On écoute Grace Moore chanter Reynaldo Hahn en français, Si mes vers avaient des ailes, avec ici un accompagnement orchestral très hollywoodien. C'est un enregistrement réalisé à New York 2 ans après son récital havanais.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quillivéré pour les médias francophones publics.
La belle voix de Grace Moore. Au printemps 1940, la campagne électorale bat son plein dans toute l'île de Cuba. Et celui qui semble avoir la faveur des électeurs, en particulier des classes populaires, c'est Fulgencio Batista. Il faut dire que son rôle dans le renversement du dictateur Machado en 1934 en avait fait un leader révolutionnaire. Il avait en effet mis en place avec le président à l'époque un programme social d'envergure. C'était en 1937. 700 écoles rurales avaient été créées afin d'alphabétiser les paysans, les ouvriers, les soldats et de leur apprendre les techniques agricoles modernes. Il avait enrôlé pour cela 55 000 personnes et créé 1000 écoles supplémentaires. Lors de la campagne électorale de 1940, on le traite tantôt de fasciste, tantôt de communiste, surtout quand il prône l'autoritarisme comme fidèle associé du socialisme. Ce qui plaît beaucoup à son ami Juan Marinello, dont il a légalisé le Parti communiste en 1938. En cette période électorale, les fêtes évidemment abondent à Cuba et on y danse toujours le danson. Le danson qui évolue grâce à des musiciens comme Orestes et Israel López qui font partie de l'orchestre du flûtiste Arcanio. Surtout Israel López, que l'on appelle Cachao, qui a l'idée de syncoper davantage le rythme grâce à un ensemble de percussions plus fournies. Les danseurs se sentaient un peu à l'étroit dans le danson traditionnel, et les voilà qui s'émoustille soudain aux syncopes du nouveau rythme. C'est en 1939 que les deux frères composent ce nouveau danson qu'ils intitulent « Mambo ». Et Arcagno aime beaucoup ce mot. Il prend même l'habitude d'en faire une interjection qu'il adresse aux musiciens. « Mambo, mambo ». Mambo, c'est tout simplement un mot issu du vocabulaire afro-cubain. Et c'est ainsi qu'est né ce nouveau genre musical, le mambo, qui prendra vraiment forme vers 1944 avec Pérez Prado qui le rendra célèbre d'un côté à l'autre de l'Atlantique. Pour l'heure, on écoute le premier mambo de 1939, le danson mambo. Arcagno y sus maravillas. Une saison à la Havane ne serait pas complète sans la saison de ballet. On connaît la passion des Cubains pour les pointes et les tutus. Et pourtant, la société féminine Pro Arte a eu l'audace d'inviter les ballets de Kurt Jooss, le chorégraphe allemand installé en Angleterre depuis 1933. À son retour en Allemagne, il aura une élève très célèbre aussi, Pina Bausch. C'est un spectacle fort sur la musique de Purcell, avec des décors expressionnistes et des éclairages au clair-obscur impressionnant. C'est un gros succès public. Puis, les 4 et 6 mars, c'est le retour de New York d'Alicia Alonso et de son mari Roberto Alonso, qui dansaient là-bas avec le ballet Caravan de Lincoln Kirstein. Le spectacle qu'ils montent à la Havane commence par une reprise d'un ballet de Fokine qui fête ses 60 ans. Il s'agit de son carnaval sur la musique de Robert Schumann. Puis juste après, c'est la création de ce qui est sans doute le premier ballet cubain, Dione, composé par le vétéran des compositeurs cubains Eduardo Sanchez de Fuentes, qui avait alors 74 ans. Une histoire d'amour entre la princesse indienne Dione et un jeune captif dans un Cuba précolombien avec une musique très chantante dans la grande tradition du ballet du 19e siècle. Alicia Alonso a beaucoup aimé cette musique qu'elle trouvait idéale pour un ballet, au point de la choisir lors de la création de sa propre compagnie, 4 ans plus tard. En cette soirée de mars 1940, on avait un peu l'impression à la Havane d'être transporté dans un spectacle du ballet du Bolchoï. Eh bien, on écoute la danse avec les vents de la forêt du ballet cubain Dione.
Thank you.
Les élections présidentielles ont lieu à Cuba le 14 juin 1940. Fulgencio Batista, qui avait quitté l'armée pour se présenter, remporte la victoire haut la main. Quant au parti communiste qui le soutient, il est quasiment éliminé lors des élections sénatoriales qui suivent. En 1940, on prépare une nouvelle constitution, l'une des plus progressistes au monde, une constitution qui met l'accent sur le bien-être des travailleurs et des petits propriétaires face aux grands propriétaires terriens en particulier. Tout citoyen peut voter, la femme a les mêmes droits que les hommes dans toutes les activités de la vie, la peine de mort est supprimée, oui, les Cubains sont fiers d'être ainsi des pionniers. Le 16 décembre 1940, le théâtre Auditorium doit refuser du monde. C'est Serge Rachmaninov qui est de retour à la Havane. Il était venu la première fois en 1923 et c'est un public très coloré qui se presse au théâtre. Des abonnés habillés en grand gala, aux jeunes qui se bousculent au poulailler, c'était moins de 3 ans avant la mort de ce géant de la musique russe. On écoute Serge Rachmaninov dans le dernier épisode du Carnaval de Schumann, une œuvre que le public cubain adore. En particulier, la marche des compagnons de David contre les Philistins, c'est-à-dire les musiciens académiques et sclérosés. Après Rachmaninov, à la fin de l'année 1940, on annonce dans la presse havanaise l'arrivée d'un jeune prodige de 25 ans. Il s'agit de Yehudi Menuhin. Pour le concert du 2 janvier 1941, les 2600 places du théâtre Auditorium partent en quelques jours. Au programme, Tartini, Kreisler et bien sûr Bach avec la sonate numéro 1. Et dans le groupe final, la fille aux cheveux de lin de Debussy et un bel hommage à Joaquin Nin avec son célèbre arrangement de la chanson andalouse El Vito. C'est un voyage éclair que Menuhin fait à la Havane. Le lendemain du concert, il part très tôt à Miami. Mais il revient l'année suivante et régulièrement jusqu'en 1948. Il est vraiment tombé aussitôt sous le charme de la Havane. Yehudi Menuhin accompagné par Alexander Makarov dans La fille aux cheveux de lin de Claude Debussy, puis accompagné par Gerald Moore dans El Vito de Joaquin Nin. Au printemps 1940, le Mexique est à nouveau à l'affiche à la Havane. Cette fois, le public se rue au cinéma Rex pour écouter le ténor mexicain Pedro Vargas. Le cinéma Rex qui était le cinéma spécialisé dans les films musicaux et les représentations filmées au Metropolitan Opera ou au Bolshoï, comme quoi nous n'avons rien inventé. Pedro Vargas connaissait un véritable culte dans son Mexique natal. Il reviendra souvent à Cuba. On va l'écouter dans un boléro, Flores Negras, les fleurs noires, écrit à Mexico par le Cubain Sergio De Carlo. Tes baisers me font souffrir, je vis prisonnier de l'amour que j'ai pour toi.
Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben fingir. Y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir. Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben fingir. Y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir. Y aunque viva prisionero, en mi soledad mi alma te dirá te quiero. Nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras del destino nos apartan sin piedad, pero el día vendrá para mí no más, no más. Flores negras del destino nos apartan sin piedad, pero el día vendrá en que seas para mí no más.
Un boléro cubain amoureux pour se quitter aujourd'hui, mais on se donne bien sûr rendez-vous dans notre prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Géraldine Prutner et Olivier Dupré, une émission que l'on peut aussi écouter et réécouter en podcast.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.